C'est parti. Bonjour à tous. Donc ce matin, nous continuons avec notre étude de l'épître aux Romains. Donc on arrive au chapitre 11. Donc, alors c'est la dernière prédication sur l'épître aux Romains avant les vacances. On va faire une pause pendant l'été. Parce que voilà, chacun voilà, l'Église se disperse un petit peu, et donc on voulait que le suivi de cette étude puisse se faire avec tout le monde. Donc on arrive au chapitre 11, et alors donc je vais le lire. Alors pas en entier, donc c'est un chapitre qui fait 36 versets. Donc on l'a dit souvent, hein, l'épître aux Romains c'est un texte qui est dense. Et c'est ce texte aussi est un texte qui est pas facile, parce que il nous parle essentiellement d'Israël et de la place d'Israël dans l'histoire du salut. Donc alors ça peut paraître un peu loin en fait de nous. Quand j'ai commencé à lire ce texte, je me suis demandé comment est-ce que je peux arriver à vous transmettre l'idée que ce texte est pertinent pour vous aujourd'hui, pour moi. Qu'est-ce que ça m'apporte? Et c'est vrai, ce texte nous parle donc à la fois du passé, alors du passé lointain. Des patriarches, on va dire, hein, du début d'Israël. Il nous parle du début de l'Église. Donc, on le sait, donc cette épître aux Romains a été écrite à l'Église de Rome du premier siècle, qui était un mélange de juifs et de non-juifs. Donc, c'est évidemment très... Il y a un contexte à ce texte, hein, évidemment. Donc les premiers siècles de l'Église, c'est un texte qui nous parle aussi du futur, qui nous parle de la fin des temps, qui nous parle du retour de Christ. Donc, j'ai envie de dire que a priori, c'est pas un texte qui nous parle de maintenant. Et donc, il faut arriver à lui trouver un sens. Et bon, alors, quand même, c'est vrai que quand on parle du passé et du futur, on parle d'une trajectoire. On parle d'un début, d'un commencement et d'une fin. C'est important de savoir d'où on vient et où on va. On va parler un petit peu d'identité pendant cette étude. Ce sont des thèmes, hein, qui parcourt notre société, hein, quelle identité on a, c'est parfois polémique, hein, dans notre société. Ce texte nous parle de ça. Et je veux quand même dire que c'est important de parler du présent, de parler de ce qu'on vit, de concrètement comment est-ce qu'on vit notre foi avec Dieu. Et ce sera le sujet d'ailleurs, hein, des chapitres suivants. De qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne, hein. Paul va finalement aborder ces thèmes-là. Malgré tout, cette idée de savoir qui on est, d'où on vient et où on va, c'est quelque chose qui nous structure. Ça nous donne une direction. Hein, vous savez qu'il faut deux points pour faire passer, pour définir une droite. D'accord ? Si on parle que du présent, s'il y a un point, ça ne donne pas une direction. Là, ça nous parle du début et de la fin. Et ça construit notre façon de nous projeter. Ça construit notre façon de nous comprendre. Donc c'est quelque chose qui est important. Alors, donc je vais lire ce texte. Donc pas tous les versets. Alors, je vous dirai où est-ce que je m'arrête et où est-ce que je saute un peu. C'est simplement pour aller plus vite et pour essayer de donner peut-être une dynamique un peu plus orale à ce texte, parce que à l'écrit on arrive à rentrer dedans, quand on l'écoute c'est un peu plus compliqué. Donc je commence, donc Romains chapitre 11, je lis dans la traduction du Semeur, celle qui est affichée. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple ? Assurément pas. En effet, ne suis-je pas moi-même israélite, descendant d'Abraham, de la tribu de Benjamin ? Évidemment, c'est Paul qui parle. Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il s'est choisi d'avance. Rappelez-vous ce que dit l'Écriture dans le passage rapportant l'histoire d'Élie, dans lequel celui-ci se plaint à Dieu au sujet d'Israël. « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels, et moi je suis resté tout seul, et voilà qu'ils en veulent à ma vie. » Eh bien, quelle a été la réponse de Dieu ? « J'ai gardé en réserve pour moi 7000 hommes qui ne se sont pas prosternés devant le dieu Baal. » Il en est de même dans le temps présent, il subsiste un reste que Dieu a librement choisi dans sa grâce. Or, puisque c'est par grâce, cela ne peut pas venir des œuvres, ou alors la grâce n'est plus la grâce. Que s'est-il donc passé ? Ce que le peuple d'Israël cherchait, il ne l'a pas trouvé. Seuls ceux que Dieu a choisis l'ont obtenu. Les autres ont été rendus incapables de comprendre, conformément à ce qui est écrit, « Dieu a frappé leur esprit de torpeur, leurs yeux de cécité et leurs oreilles de surdité. Il en est ainsi jusqu'à ce jour. » De même, David déclare « Que leur banquet devienne pour eux un piège, un filet, une cause de chute et qu'ils y trouvent leur châtiment. Que leurs yeux s'obscurcissent pour qu'ils perdent la vue, fais-leur sans cesse courber le dos. » Paul continue ensuite en expliquant que la chute d'Israël a rendu le message accessible à tous, et que le fait que les non-chrétiens se tournent vers alors que les non-juifs se tournent vers Dieu, en fait, va exciter leur jalousie. Et au verset 15, donc je reprends au verset 15, car si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, quel sera l'effet de leur réintégration ? Rien de moins qu'une résurrection d'entre les morts. En effet, si les prémices du pain offert à Dieu sont consacrées, toute la pâte l'est aussi. Si la racine est consacrée, les branches le sont aussi. Ainsi en est-il d'Israël. Quelques branches ont été coupées. Et toi, qui par ton origine païenne étais comme un rameau d'olivier sauvage, tu as été greffé à leur place. Et voici, tu as part avec elle à la sève qui monte de la racine de l'olivier cultivé. Ne te mets pas pour autant à mépriser les branches coupées. Si tu es tenté par un tel orgueil, souviens-toi que ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est elle qui te porte. Donc là, Paul nous a parlé d'une greffe, et il va parler de la du fait que oui, que Dieu est bon et qu'il est aussi sévère que. Cette bonté qu'il manifeste envers nous est due à la foi que nous avons en Christ. Et il nous dit, en ce qui concerne les Israélites, ils ne resteront pas dans leur incrédulité, et un jour, eux aussi seront à nouveau greffés à l'olivier. Et donc je reprends au verset 25. Frères, je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance de ce mystère, pour que vous ne croyiez pas détenir en vous-même une sagesse supérieure. L'endurcissement d'une partie d'Israël durera jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré dans le peuple de Dieu. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. C'est là ce que dit l'Écriture. De Sion viendra le libérateur. Il éloignera de Jacob toute désobéissance. Et voici en quoi consistera mon alliance avec eux, c'est que j'enlèverai leurs péchés. Si l'on se place du point de vue de l'Évangile, ils sont devenus ennemis de Dieu pour que vous en bénéficiez. Mais du point de vue du libre choix de Dieu, ils restent ses bien-aimés à cause de leurs ancêtres. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Vous-même, en effet, vous avez désobéi à Dieu autrefois. Et maintenant, Dieu vous a fait grâce en se servant de leur désobéissance. De la même façon, si leur désobéissance actuelle a pour conséquence votre pardon, c'est pour que Dieu leur pardonne aussi. Car Dieu a emprisonné tous les hommes dans la désobéissance, afin de faire grâce à tous. Combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. Car qui a connu la pensée du Seigneur ? qui a été son conseiller? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé en retour? En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Amen. Les relations entre les Juifs et l'Église ont toujours été, alors je vais le dire comme ça, mais compliquées. Et c'est un euphémisme. Ces relations entre les Juifs et l'Église ont été toujours des relations de conflit. Au début de l'Église, c'est les chrétiens qui ont été persécutés par les Juifs. Quand les chrétiens sont devenus majoritaires, localement et puis finalement dans l'Empire romain tout entier, c'est le contraire qui s'est passé. C'est les chrétiens qui se sont mis à persécuter les Juifs. Et maintenant, on a deux attitudes, j'ai envie de dire, deux erreurs dans la relation à Israël. Une première erreur, ce serait de considérer que Israël a été complètement remplacé par l'Église, et que en fait toutes les promesses qui se rattachaient au peuple de Dieu, maintenant s'attachent uniquement à l'Église, et Israël a été finalement effacé de l'alliance avec Dieu. Ce texte nous montre clairement que c'est pas le cas. Alors un autre extrême serait de considérer finalement que c'est Israël qui est le projet de Dieu, le seul qui compte, et que l'Église n'est qu'une parenthèse. Et que finalement, Israël détenait la promesse, l'Église est venue comme une parenthèse, et finalement c'est Israël qui accomplira le projet de Dieu. On voit aussi que ce texte nous montre que c'est pas ça non plus. Malgré tout, Israël Paul évidemment utilise ce terme-là. Israël, ça fait référence à un peuple, à un pays. Pendant près de 2000 ans, Israël n'existait plus, il restait que le peuple juif qui vivait parmi les chrétiens. Et alors, évidemment, pas seulement parmi les chrétiens, les Juifs ont été dispersés partout dans le monde maintenant. Mais donc, les Juifs ont toujours été une épine dans le... une épine, finalement, dans l'Église. Parce que ils étaient là, au milieu des chrétiens, et ils refusaient de se convertir. Alors, ceux qui sont restés juifs justement parce qu'ils ont refusé. Hein. Certains se sont convertis, ont été assimilés. Hein. Mais malgré tout, ce peuple est resté réfractaire à l'Évangile. Et on peut voir d'ailleurs que Paul a le même problème. Hein. Donc tout au début de la vie de l'Église, il est confronté, lui, juif, au fait que son peuple refuse d'accepter l'Évangile. Et pour l'Église, au fil des siècles, ce refus a été géré de façon différente. Hein. Par moments, ça a été une acceptation, hein, une cohabitation plus ou moins pacifique. À d'autres moments, ça a été un rejet complet. On peut penser, par exemple, quand l'Église d'Espagne a éjecté les Juifs d'Espagne en leur disant que soit ils se convertissaient, soit ils mouraient. Donc, par exemple, ça a été pour l'Espagne catholique, mais même pour les églises protestantes à l'époque de Luther, cette idée que les Juifs devaient se convertir et face à la constatation qu'ils ne le faisaient pas, à une époque où l'Église se concevait comme un va dire, comme une communauté qui englobait toutes les personnes présentes sur le sol, en fait, c'était quelque chose qui était insupportable. Et tout ça a dégénéré vers un certain antisémitisme dans l'histoire de l'Église, que ce soit chez les catholiques ou chez les protestants. Alors évidemment, pas toujours, pas partout, mais malgré tout, ce rejet des Juifs, cette incompréhension de leur non-conversion a été souvent présente. Et ce texte, à mon avis, nous permet de retrouver un juste regard sur Israël. Parce que il nous montre à la fois la fidélité de Dieu envers son peuple, et il nous montre aussi la transformation, enfin l'ouverture finalement de la promesse aux non-juifs et au monde entier. Ce qui est central dans l'histoire du salut, parce que ce texte nous parle de ça, ça nous parle de l'histoire du salut, ce qui est central, c'est le Christ. C'est central parce que c'est le Christ que Dieu a placé au cœur de l'histoire. C'est vers lui que vont toutes les promesses. C'est lui qui rassemble et qui donne finalement le sens à cette histoire du salut. Et on voit ici que Paul nous parle du retour du salut d'Israël. Du salut d'Israël. Et ce salut est lié... Alors, dans le texte, on voit au verset 15, il nous dit, voilà, le rejet par Israël du Christ a permis à ce que l'Évangile soit annoncé au monde entier. Donc ce rejet a été une bénédiction pour nous. À combien plus forte raison leur retour sera aussi une bénédiction. Et Paul lit ça au fait que le retour d'Israël est lié à la résurrection d'entre les morts. Donc au verset 15. Si leur mise à l'écart a entraîné à la réconciliation du monde, quel sera l'effet de leur réintégration? Rien de moins qu'une résurrection d'entre les morts. Alors, évidemment, il y a différentes façons de comprendre ce passage. Moi, je le comprends comme une référence au retour de Christ. Le moment où le fait que le Christ revienne dans le monde et ressuscite, puisque c'est là la promesse, ressuscite ceux qui sont ce que Dieu a sauvé. Donc ce retour d'Israël dans l'histoire du salut est lié à l'accomplissement de la promesse du retour de Christ, de la nouvelle terre et de finalement de tout ce qui va avec. Mais ce texte nous parle de ce que c'est que ce retour et de ce que c'est que finalement et de ce que c'est que le peuple de Dieu. Et Paul donc commence ce passage en nous parlant du reste d'Israël, et donc il prend l'exemple de ce qui s'est passé au temps d'Élie, où donc le roi Akab et Jézabel, donc sa femme, avaient détourné le peuple, en tout cas une grande partie du peuple, de l'adoration vers Dieu pour l'amener vers l'adoration de Baal. Et beaucoup s'étaient prosternés devant cette idole. Et le prophète Élie passait par une phase de profond découragement et disait, mais où est le peuple ? Où sont ceux qui sont restés fidèles à Dieu ? Parce que moi, je ne vois que des gens qui se prosternent devant des idoles et qui veulent me tuer et qui veulent tuer les prophètes. Et le texte nous dit, mais Dieu a répondu en lui disant, j'ai préservé un reste. Cette idée du reste, ça met en avant le fait que il y a une différence entre le peuple visible et le peuple réel. Le peuple visible, bon, très bien, c'était le peuple d'Israël, ceux qui habitaient là, ceux qui se reconnaissaient comme étant descendants des 12 tribus, et bon. Mais pour Dieu, son peuple, c'était ceux qu'il avait choisis, ceux qu'il avait préservés de l'idolâtrie. C'est l'idée que ce qu'on voit n'est pas finalement ce que Dieu voit. Quand Dieu voit son peuple, lui, il voit ceux qu'il a choisis. Alors, évidemment, ça pose la question de la liberté. C'est une question qui revient souvent. Et là, on voit dans ce texte que... OK, Paul met en avant deux choses. Il met en avant le fait d'abord que c'est Dieu qui choisit son peuple, ceux qui restent. C'est lui qui les choisit. Et que même il obscurcit le jugement de ceux qui finalement sont rejetés. Et alors on peut bien sûr se dire, mais alors, et Paul a, dans certains passages, le dit, hein, mais si c'est Dieu qui décide tout, alors comment est-ce qu'il peut encore nous reprocher quelque chose? Et il dit, mais la réponse de Paul à cette question, c'est tu ne peux pas contester avec Dieu. Alors évidemment, ça crée une tension. Ça crée une tension entre ma responsabilité, ma liberté, dans l'appel, dans la réponse que je donne à l'appel de Dieu, évidemment. Et puis, cette toute-puissance de Dieu et le fait que ce soit lui qui choisit, c'est lui qui donne la capacité, finalement, à entendre et à comprendre. Bon, cette tension, chez moi, elle fait... Ce qu'elle fait naître, c'est d'abord la foi. Parce que... dans mon rapport à Dieu, je sais que je suis libre de choisir, mais je suis aussi complètement dans sa main, et c'est lui qui me garde et qui me tient. Donc pour moi, cette tension, elle se résout dans cette relation de foi et de confiance que j'ai avec mon Dieu. Donc le reste d'Israël, donc c'est celui-là qui va être sauvé et qui reviendra vers Dieu. Ce reste, c'est aussi une réalité pour l'Église. C'est une définition presque du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est celui que Dieu a choisi, plus que celui qu'on voit. Et c'est vrai dans l'Église aussi. Alors, j'ai envie de dire peut-être moins maintenant. Pendant des siècles, l'Église a été une puissance du monde, hein. C'était une puissance qui faisait cohésion dans la société, et les gens étaient dans l'Église d'abord parce qu'ils étaient nés dedans et parce qu'ils n'avaient pas réellement la possibilité d'en sortir. Donc distinguer dans tout cela, enfin, qui était réellement le peuple de Dieu, c'était compliqué. Beaucoup étaient dans l'Église simplement parce que, ma foi, c'était là qu'on les avait mis. Aujourd'hui, on a peut-être le privilège, finalement, du fait qu'il n'y a plus de puissance dans l'Église. En tout cas, dans notre société occidentale. Alors, peut-être pas encore complètement, mais quasiment. Ça nous apporte... Je pense qu'ici, on retire peu d'avantages à être membre de notre Église. D'accord ? Pas beaucoup de prestige social, Bon, on serait peut-être voilà, plus accepté socialement si on faisait partie d'un club de foot. Bon, ça nous apporte rien. Si on vient ici, c'est parce que réellement le Seigneur nous a touchés. Mais cette idée du reste fait quand même nous pose quand même la question de bien mesurer ce que nous voulons faire ensemble. Nous voulons être le peuple de Dieu, celui qu'il s'est choisi. Et bien sûr qu'on veut être accueillant et accueillir tous ceux qui nous, tous ceux qui viennent. On veut leur témoigner de l'amour, du respect, c'est évident. Malgré tout, notre identité, elle est dans cette élection de Dieu. Notre identité, elle est dans le fait que nous sommes des disciples de Christ. On ne veut pas construire un groupe accueillant et sympa. C'est pas ça qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est être ce reste que Dieu a choisi. Celui qu'il a mis à part pour être ses adorateurs en esprit et en vérité. C'est ça qu'on veut être. Et cette idée du reste, pour moi, c'est ça qu'elle met en avant. Dans ce retour d'Israël vers le Christ, Paul utilise l'image de l'olivier, l'image de la greffe. Alors, donc là, il nous parle de l'olivier cultivé sur lequel on vient greffer des branches d'olivier sauvage. C'est un peu étonnant parce que normalement, il me semble que je suis pas très fort en greffe, mais normalement, c'est le contraire. Hein. On greffe du bon sur du sauvage parce que le sauvage a plus de force. Voilà, en fait, il est plus fort. Bon, je sais pas si Paul était au courant de la façon dont on greffait, mais bon, en tout cas, dans l'image qu'il utilise, c'est une image, voilà, du fait que pour porter du fruit, il y a une idée là. Donc il y a deux choses, il y a la greffe, mais il y a aussi l'émondage, le fait que des branches ont été coupées parce qu'elles ne portent pas de fruits. C'est pour ça qu'on coupe des branches, hein. C'est parce qu'elles ne portent pas de fruits. Israël a été retiré de l'olivier. Alors ses racines, en fait, elles plongent dans l'histoire, de l'Alliance, hein. Les patriarches, le Abraham, cette histoire de la révélation de Dieu qui parcourt les siècles, cette sève qui monte des racines jusque dans le tronc et jusque dans les branches. Alors qu'est-ce que c'est que cette sève? Bah, cette sève, c'est le salut. C'est le salut apporté au monde. C'est ça qui coule dans l'olivier. Et le fruit qui est porté par chacune de ces branches, c'est le témoignage. Le témoignage de qui est Dieu. Et quand les branches sont coupées, c'est parce qu'elles ne portent plus ce témoignage. Et le salut ne passe plus par Israël. Ne passe plus par Israël parce que, eh bien, le salut, c'est le Christ. Et donc, si tu ne t'attaches pas au Christ, tu ne peux pas faire partie de cette histoire du salut. Et c'est pour ça que ces branches sont coupées. Moi, ce qui m'a marqué dans ce passage, donc je vous ai dit que je voulais qu'on parle un petit peu d'identité. Quand Paul parle d'Israël, il parle de son peuple. D'accord ? Il est israélite. Et il aime son peuple. Il y est attaché, c'est son identité. Et pourtant, Paul va quitter cette identité pour s'attacher au Christ. Il va quitter quitter une alliance pour en trouver une autre. Il va être... Lui est lui fait partie des branches qui ne sont finalement pas greffées. Ce sont les branches de l'olivier originel qui sont restées. Nous qui sommes des non-juifs, eh bien nous sommes greffés. Et cette idée quand même de greffe, pour moi, ça m'interroge sur effectivement sur qui je suis. Parce que celui qui est greffé, pour moi, c'est la même image qu'un déracinement. Je suis greffé à une autre souche. Alors, j'utilise le mot souche exprès, parce que dans notre société, on sait les oppositions qui peuvent être mises entre des Français de souche et puis des Français pas de souche. Les oppositions qu'on peut alors construire ou qui nous viennent de l'histoire, hein, entre des blancs, entre des noirs, entre des Français, des étrangers, des hommes et des femmes. Chacun a son histoire, sa culture. Comme pour Paul. Mais Paul nous dit, voilà, vous avez été greffé sur une nouvelle branche, une nouvelle souche. Vous êtes des déracinés. Votre appartenance a changé. Maintenant, vous êtes plus des deux souches de ce que vous voulez. Vous êtes des branches sur l'olivier du salut. Vous êtes des branches dans le peuple de Dieu. Vous êtes membre de ce peuple. Alors, bien sûr, on peut avoir plusieurs identités. Ok, moi, d'accord, je suis un Français du Sud. Je vais aimer le fromage et les champignons et le vin. Et bon, voilà, donc j'ai une culture, il y a des livres, voilà, des auteurs que j'aime, une façon d'appréhender le monde. Bon, mais au-delà de cette culture, de cette identité, j'ai été greffé à un nouvel arbre qui fait que je fais partie d'une famille qui dépasse les frontières, les couleurs, les cultures, qui dépassent les sexes aussi, puisque au bout du compte, nous sommes tous des enfants de Dieu. Et je termine sur cette idée de greffe, sur le fait que donc la promesse que Israël va être greffé à nouveau. Et là, je pense que Paul parle d'Israël, je vais dire, selon la chair, il parle des ancêtres, selon le sang. Donc Israël, tel qu'on le voit maintenant, donc pas tout Israël, parce que, une fois encore, c'est ceux que Dieu aura choisis qui seront finalement appelés à lui. Donc cette greffe à nouveau d'Israël sur le tronc du salut se fera en Christ. Qu'on ait quand même bien cette idée en tête que quel que soit le peuple, l'histoire du salut passe par le Christ. Et que quand Israël reviendra, eh bien, il reviendra par le Christ, par ce Jésus qu'ils ont rejeté. L'action que l'Esprit fera dans leur cœur sera de leur faire revenir à Christ. Et je vais terminer cette étude avec les derniers versets de ce chapitre. Nous pousse j'ai envie de dire, à l'humilité. Donc, la question, voilà, la question d'Israël, la question de la fin des temps, de la façon dont on le comprend, ça a été dans, dans l'Église souvent des occasions de se diviser. Paul conclut ce passage en nous parlant du mystère qu'il y a dans le plan de Dieu. Une partie de ce plan est révélée. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous dit juste avant. Hein, je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance de ce mystère. Donc, une partie du mystère est révélée. Malgré tout, beaucoup reste pour nous difficilement compréhensible. On a du mal à pouvoir interpréter correctement les prophéties. Qu'est-ce qui va se passer, quand, comment, c'est pas facile. Malgré tout, nous devons nous attacher à ce que nous comprenons, au fait que nous attendons le retour de Christ, et que notre espérance, elle est là, d'être réunis avec lui, et que notre espérance pour le monde, elle est là aussi. Que le Christ, un jour, vienne régner. Paul nous dit combien profondes, alors là je lis au verset 33, voilà, combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. Paul, qui pourtant est un géant de la foi et de la compréhension qu'il a de Dieu, Paul se place devant son Dieu et dit, voilà, je ne comprends pas tout, je ne comprends pas comment tout s'enchaîne et s'organise. Malgré tout, je reconnais dans les plans de Dieu, d'une part, sa sagesse. Je reconnais que Dieu, qui maîtrise le début et la fin, que sa sagesse, le choix qu'il a fait de ce chemin du salut, eh bien, je reconnais sa toute-puissance et sa sagesse là-dedans. C'est la clim qui fait du bruit dehors. On peut peut-être l'éteindre. Hein. Ah, ça coule en plus. Mais il faut l'éteindre alors, Martine. Non, mais parce que vous utilisez peut-être pas la bonne, c'est pas celle-là, c'est l'autre, elle est dehors. Elle est posée sur le, elle est posée sur la bibliothèque. Alors je termine avec en laissant les clims se gérer. Donc oui, la sagesse de Dieu dans ce plan que nous n'arrivons pas à maîtriser et à connaître. Donc la soumission en fait à ce plan, c'est ça que je pense ce texte nous invite à suivre. Ça nous invite à nous soumettre au plan que Dieu a conçu de toute éternité. Ça nous invite à manifester notre foi ça me perturbe cette histoire. Je vais avoir du mal à terminer. Donc notre foi dans ce plan. Et pour vraiment terminer, ce texte nous parle de la grâce que Dieu manifeste dans son histoire, dans ce plan du salut. Il nous a enfermés dans la... C'est pas la bonne télécommande, Martine. Si, il y en a une autre.
Bon.
Oui, oui. Donc la grâce que Dieu nous fait dans ce qu'il prévoit pour nous. Et je m'arrête là. Merci. Okay.